Chapitre 12, la fin de vie.
Qu'attends-tu du ciel? Il n'entend que de la pluie ou des bombes.
Je ne veux pas m'étaler 3 heures sur la mort et son business. Ça concerne pourtant directement notre sujet. Car la sécu, c'est l'expression de nos velléités sociales collectives. Alors oui, la mort peut être un enjeu social vraiment intéressant, d'autant plus que, sans vouloir paniquer, même si tu n'es pas sûr de vieillir, d'être malade ou d'être enceint, aujourd'hui est le premier jour de ce qui te reste à vivre. Et si tu es... Enfin bon, en gros, tu es certain de vivre...
Mourir.
De finir ta vie morte.
Est-ce que c'est 100% sûr, ça?
Bah, 100% sûr, ouais. Pour l'instant, on ne connaît pas de cas qui...
Mais rien ne me prouve que je mourrai.
Bah, fais-toi tuer et tu verras bien.
Bah, je crois faire un tout petit peu à ta mort.
Et bah, je vais te surprendre, mais moi, je n'exclus pas de me faire tuer volontairement, du moins. Mais bon, n'allons pas trop vite. Dans le dossier de la mort... Dans le dossier de la mort, il y a d'emblée un carcan dont je voudrais me défaire, car il m'a été imposé petit. Il s'agit du carcan religieux. N'ayant rien demandé, on m'a versé de l'eau bénite sur la tête, et je suis illico devenu un chrétien marchant aux côtés de Jésus, des apôtres et du Saint-Esprit. Cette histoire séduit de gré et parfois de force un certain nombre de gens. Grand bien leur face. Bon, même si le bilan global des religions monothéistes est absolument désespérant, depuis les conflits stupides jusqu'aux pédocriminalités de prêtres, en passant par les accablements moraux de filles-mères, des non-baptisés, des étrangers, des juifs, des mécréants, des blasphémateurs, bon, pour ma part, cette fable ne me séduit pas. Seulement, toute la prise en charge sociale des pauvres et des malades vient de la charité chrétienne avec ses bons sentiments, mais surtout sa notion de péché omniprésente.
Tu veux dire que tu regrettes qu'on t'ait baptisé?
Bah assurément oui. Alors une fois en âge de comprendre l'entourloupe et de voir que l'église parlait en mon nom, bah, j'ai réclamé ma débaptisation à l'évêque du diocèse de mon baptême. Or c'est impossible à obtenir. Car une fois que t'es baptisé, c'est à vie que tu l'es. Sauf être classé apostat. Mmh. On peut obtenir son retrait du registre des baptêmes, ce que j'ai fait. Alors l'évêque m'a alors écrit pour me dire que... Je cite, je suis à la phrase, c'est vrai. Désormais, je ne pourrai plus réclamer une sépulture chrétienne. Ce qui ne m'a pas inquiété outre mesure. Bon, mais ça faisait un côté un peu flippant. Mais ça m'amène à notre sujet, tu vas voir. En fait, ce n'est pas du tout leur sujet, cette question.
Bah, moi, je ne sais pas si je suis croyant ou pas.
Peu importe. Déjà, on devrait commencer par éviter au maximum de remettre nos dépouilles aux groupes privés, quels qu'ils soient. Surtout les groupes religieux qui se sont octroyés des siècles durant nos calames et la soi-disant âme qui était censée, parmi d'autres fluides, en exuder. D'abord, qui décide qui était mort? Auparavant, c'était un officier de police judiciaire, un OPJ, qui déposait un bracelet au défunt. OPJ ne signifie pas forcément policier. Hein. Si tu es OPJ, tu peux être maire, par exemple, ou adjoint maire, par exemple. Depuis 2012, ce n'est plus le cas. Ce sont les infirmiers en EHPAD ou dans les hôpitaux ou les agents funéraires au domicile qui mettent un bracelet d'identification. La vérification et la déclaration du décès, elles, sont le fait d'un médecin qui constate les faits et délivre un certificat de décès.
Ok, déjà qu'il n'y a parfois pas suffisamment pour s'occuper des vivants.
On ne croit pas si bien dire. Il faut fréquemment attendre plusieurs heures pour constater un décès faute de médecin disponible dans sa commune. Quand il y en a un. Pour dénoncer cela, le maire de Laigneville, dans l'Oise, a pris un arrêté humoristique symbolique en mai 2017, interdisant de décéder à son domicile. Alors, plus sérieusement, il y a un problème que je ne veux pas feindre d'ignorer là-dedans. Comment et par qui définit-on la mort? Alors que la vie elle-même n'a pas de définition. À partir de quand peut-on établir qu'une personne est vraiment morte?
Quand elle ne respire plus.
Eh ben non. La mort étant traditionnellement définie comme ça, par l'arrêt des fonctions organiques principales comme la respiration et l'automatisme cardiaque. Mais depuis l'avènement des méthodes médicales de réanimation, ventilation, drogues vasopressives et autres techniques qui permettent de faire reprendre artificiellement ces fonctions, il a fallu changer de définition. À la fin du XXe siècle, on a commencé à parler plutôt de mort cérébrale, quand le cerveau est cramé, tu vois, irréversiblement cramé. Cette définition de la mort est devenue légale en France par la circulaire du 24 janvier 68.
Non mais, attends. Tu peux donc être légalement morte ou mort, et ton cœur continue de pulser tranquillement au rythme du matériel qu'on t'aura branché.
Ouais, charmant, hein. Depuis 2012, l'OMS donne de la faucheuse la définition suivante. Je cite. « La mort se produit lorsqu'il y a perte permanente de la capacité de conscience et perte de toutes les fonctions du tronc cérébral. » Je coupe un morceau. Dans le contexte de détermination de la mort permanente, se réfère donc à une perte de fonction qui ne peut reprendre spontanément et ne peut être restaurée par intervention. Fin de citation. Donc, il ne suffit pas qu'un croque-mort te morde l'orteil, comme on aime à le raconter, ce qui n'a pas existé, mais peu importe. Il faut que tu n'aies aucune activité cérébrale électrique, ni de réactivité à un examen neurologique complet des réflexes. Généralement, si tu ne réponds plus à rien, ton tissu cérébral est en nécrose, là, tu es totalement, irrémédiablement, complètement mort.
Okay.
Théoriquement, 2 médecins au moins, quand il y en a, viennent faire un examen neurologique dans toutes les sphères de l'activité cérébrale, et pour bien vérifier que tu n'as pas pris un quelconque champignon ou fumé un cactus chamanique, 2 tracés plats de EEG, les transencéphalogrammes, de 30 minutes réalisés à 4 heures d'intervalle, viennent tirer un trait sur ton existence.
C'est réjouissant.
Bah plutôt, oui, ce n'est pas un luxe, toutes ces précautions. Il est arrivé dans l'histoire un certain nombre d'erreurs de diagnostic amenant des comateux, comme on ne les appelait pas encore, à revenir à la vie. C'était la fête des revenants et autres mangeurs de linceuls, appelés ainsi parce que, comme tu l'as compris, on retrouvait ces supposés cadavres avec un bout de leur drap mortuaire dans la bouche, témoignant d'une suffocation post-sépulturale, et d'ailleurs même des fois des grattements, enfin, ils avaient gratté le couvercle. Bref,
c'est terrible. Alors, tout bien pesé, je crois que je préfère effectivement les définitions légales de mort cérébrale.
Moi aussi, mais tout n'est toujours pas aussi clair. Il y a toujours des petits problèmes. Il y a des états intermédiaires entre la vie et la mort. Alors, on les mesure désormais avec une échelle dite de Glasgow-Liège. En anglais, l'échelle GLS, Glasgow pour la ville où travaillaient deux types, c'est-à-dire de Tisdale et Janet, et qui ont conçu la base en 1974, et Liège pour la ville où Born et ses collègues l'ont amélioré 8 ans plus tard. Alors, on échelonne de 3, coma profond, à 20, éveil complet et prêt à en découdre. Le plus dramatique est sûrement l'état pas aussi relationnel, qu'on appelle aussi l'état de conscience minimale, qui décrit un patient incapable de suivre de manière cohérente des instructions simples, mais qui démontre néanmoins un état de conscience de son environnement. Ces patients ont souvent une poursuite visuelle, ils suivent des yeux, et peuvent présenter des changements comportementaux et émotionnels induits par des stimulations verbales, comme des voix familières ou même des musiques. Okay. Se pose alors la question pour la société de savoir quoi faire d'une personne dans un tel état. Faut-il la maintenir en vie coûte que coûte, comme incite à le faire le serment d'Hippocrate, quelque chose à la version.
Comment ça ? Le médecin ne prête pas tous le même serment ?
Ah non, le médecin soutenant sa thèse, soit dit en passant, une thèse plutôt légère, d'un an, au contenu parfois un peu douteux sur le plan méthodologique, c'est vraiment inégal, les thèses de médecine, et le médecin qui soutient sa thèse donc, peut choisir parmi différentes versions du serment, mais c'est plus un rite de passage qu'autre chose. Ce qui va compter, c'est l'engagement, sous serment et par écrit, à respecter le code de déontologie médicale lors de l'inscription à l'ordre des médecins. On peut avoir ici, notre société part du principe que le soignant doit soigner, quelle que soit la nationalité du belligérant, la solvabilité du mendiant et l'état dans lequel se retrouve l'accidenté. Pourtant, depuis la fin des années 70, des mouvements associatifs contestent ce dernier point. Maintenir coûte que coûte en vie un malade confine à un acharnement thérapeutique et on se retrouve avec un clivage savamment orchestré par les religions installées. D'un côté, ces dernières estimant que la vie est un don de Dieu, la créature humaine n'est pas apte à la retirer.
Mais c'est contradictoire.
Ouais, mais je sais, c'est contradictoire avec le nombre de morts des guerres de religion, mais bon, les églises, elles en sont pas là. Alors, côté des proches, des parents souvent qui se refusent à accepter l'état dans lequel est plongée la personne et entretiennent un espoir de retour à la vie, peu importe l'état de cette dernière. Tu sais que je ne souscris pas à Dieu, donc forcément pas plus à l'appréciation de la vie comme un de ses dons, mais... et que je considère comme assez égoïste d'épancher mon chagrin en jouant avec la dignité de mon proche à une super roulette russe où le pistolet a 1000 chambres dans le barillet et 299 balles invalidantes là-dedans, donc c'est pas vraiment mon bord. De l'autre, des gens mélangés, je borde, des gens mélangés, certains estiment comme moi qu'on a le droit de mourir en gardant sa dignité et qu'il existe un seuil au-delà duquel c'est particulièrement cruel de poursuivre des traitements. Associé à eux, des gens avec une logique comptable. Combien coûte l'entretien de ces personnes qui ont si peu de chances de reprendre leur vie d'antan ?
Ouais, mais c'est affreux de penser comme ça ! Je ne veux pas savoir combien coûte l'entretien de ma grand-mère en fin de vie.
Eh ben, arrêtons-nous un instant là-dessus. Sachant que tu gères un hôpital ou une caisse de sécurité sociale avec forcément une somme d'argent limitée, il va falloir faire un choix. Les soins palliatifs, tu sais, sont délivrés pour soulager la douleur, apaiser la souffrance et sauvegarder leur dignité à des personnes atteintes d'une maladie grave et évolutive en phase terminale. En acceptant de maintenir à grands frais une ou plusieurs personnes en coûte de soins palliatifs, de quels soins, de quel lit prives-tu d'autres gens ? Poser la question comme ça n'est pas forcément affreux. Ça serait si on avait des moyens illimités, mais c'est pas le cas.
Je te vois arriver avec tes gros sabots. Il suffirait de vendre illimité les moyens de santé, c'est ça ?
Illimité, je vois pas comment, à part en frottant la lampe d'Aladin, mais effectivement, on pourrait adoucir ce dilemme en prélevant l'argent investi ailleurs.
Alors, c'est plus avec des gros sabots, mais des gros godillots, là.
Dans l'armée, moi, je dis par exemple... Coup double, on diminue le nombre de blessés de guerre dans le monde et on permet de prendre plus de libéralité dans les soins.
Tiens, écoute, on a arrêté un peu la picole, mais là, t'es vraiment mis chez toi. Prends plutôt une tisane ce coup-ci.
Mais bon, à terme, de toute façon, le dilemme reviendra. Avec une somme limitée, que fais-tu ? Des soins palliatifs, des campagnes de prévention, des écoles, des routes
Qu'est-ce que tu proposes alors, toi qui es si malin ?
Eh bien, premièrement, si tu te rappelles, quand on a causé du tabac, on a abordé le coût d'une année de vie. Cela provient d'une notion un peu répugnante, mais à mon avis, elle est nécessaire, celle de capital humain. Mesurant la valeur d'une vie humaine à partir de sa contribution au bien-être de la société. Ouf. Cette valorisation se calcule ainsi en termes de revenus et de production et de probabilité de coût d'année de vie perdue. On appelle ça couramment le PYLL. En anglais, ça donne Potential Years of Life Lost, c'est-à-dire les années potentielles de vie perdue. D'autres auteurs ont proposé d'évaluer la disposition à payer. En anglais, c'est WTA, Willingness to Accept. Somme d'argent qu'une personne en fait, est prête à payer pour diminuer son exposition au risque. On se rapproche de ce dont on a discuté à propos des médicaments et des études prospectives de Gilead avec son médoc, le Sovaldi, hormis le fait que, dans ce cas-là, le prix n'est pas rationalisé par gouvernement soucieux de l'opinion publique qui l'a élu, mais par une entreprise qui veut juste gagner un maximum d'oseille. Ouais. Bon, j'y reviens pas, on en a parlé au chapitre précédent. Dans le domaine de la santé, on a cherché des indicateurs pour estimer la valeur de la vie. Le plus connu, c'est le QALY, Q-A-L-Y, de l'anglais, Quality Adjusted Life Year. année de vie pondérée par la qualité, qui vise à évaluer l'espérance de vie qui te reste avec la notion de qualité de vie. Il repose sur le présupposé que la valeur d'une vie n'a pas de sens en soi, mais qu'il est possible d'en faire une estimation si on considère à la fois la durée et les conditions de cette vie. Du coup, un QALY correspond à une année de vie en bonne santé, si tu veux. On le rapporte parfois au LYG, Life Years Gain, ou à l'unité de santé supplémentaire. Compter comme ça te permet d'avoir une estimation de ce qu'on nomme le coût-utilité d'une intervention. Alors, je ne sais pas sur les méthodes utilisées pour le déterminer, mais on peut ensuite estimer le coût d'une intervention médicale en monnaie QALY, si tu veux. On estime que le coût global de prévention des cancers, par exemple, est d'environ 27 200 euros par QALY gagné. Ça te permet de voir, entre deux stratégies, laquelle est moins coûteuse. Parfois, ça peut même amener à dire stop, là, vraiment, c'est trop coûteux, on ne paie pas. Différents pays ont des seuils limites, par exemple la Thaïlande qui affiche un seuil à 3500 euros, l'Australie qui a un seuil non officialisé à 30 250 euros, en Suède il y a des seuils informels allant de 50 000 à 100 000 euros selon la gravité de la pathologie. La France elle n'a pas de seuil préétabli.
Ah bon, mais pourquoi ?
Bah je sais pas. Si j'en crois les bruits de couloir, l'opinion serait trop choquée si on faisait des calculs comme ça. On le verrait comme un rationnement des soins, ce qui serait contraire au serment d'Hippocrate. En réalité, je soupçonne une forme d'hypocrisie. Nous n'avons pas des ressources illimitées. Tenter d'une optimisation assurée des ressources de la collectivité, même si elle conduit à restreindre l'accès à la prise en charge, ne peut avoir que de bons côtés au final. D'une part, on met les moyens où il faut, et de l'autre, ça obligera les industries à descendre leurs prix en attendant qu'on se débarrasse d'elles et que la santé devienne un bien public gratuit sans personne pour se faire du lard dessus.
Ok, je vois quand même une question éthique troublante là-dedans. Si tous les QALY se valent, ceux d'un jeune et d'un vieux aussi. Donc au final, gagner un QALY pour un vieux coûte plus cher que pour un jeune. Ça donnerait donc envie de placer les ronds dans les années de vie des jeunes moins chères que celles des vieux.
Ah là, tu dis ça parce que t'es jeune. Bon, tu peux aussi retourner le truc comme une chaussette mouillée. On pourrait poser le droit de chacun à accéder à un total de QALY le plus égal possible au cours de sa vie. Le simple fait qu'une personne soit vieille prouve alors simplement qu'elle a bénéficié du système et a déjà accédé à ce à quoi elle pouvait légitimement prétendre. Et toc.
Ouais, je trouve ça incroyable. Je serais incapable de fixer un seuil comme ça si on me le demandait.
Pourtant, c'est ce que revendiquent certaines méthodes de calcul nommées les méthodes fondées sur les préférences. En gros, si tu souscris à ce qu'on appelle la théorie du bien-être, selon laquelle les choix publics doivent se fonder sur le bien-être des gens, évalués par le degré de satisfaction des préférences individuelles, alors on devrait demander aux gens s'ils en pensent. Mais je t'affiche pas la liste des problèmes que ça poserait.
Bah, je t'en remercie. Mais toi, tu arrives à fixer un seuil ?
Moi, je me dis qu'il y a une équation à résoudre et je la résous approximativement pour moi-même. Déjà, je me dis que si je suis dans un état tel que mes chances de survivre sont inférieures à 1 sur 100 000, tu vois, et si mes chances de voir mes compétences intellectuelles amoindries de plus de 30%, peu importe comment on calcule ces 30%, d'air cérébral, de nombre de neurones, ce que tu veux, hein, ou si mon QALY dépassait, disons, 60 000 euros, ou si je condamne mes proches à se sentir obligés de renoncer à leur métier ou à leur vie sociale en venant tous les jours au chevet du LOC. Alors j'estime avoir le droit de demander à l'avance qu'on arrête de me faire respirer, de me nourrir par sonde et qu'on m'administre des sédatifs puissants afin que je m'éteigne comme une chandelle n'ayant plus de suif.
C'est beau. Mais ceux qui accepteront seront condamnés par la justice, non ?
Traduit en justice probablement, mais vraisemblablement acquittés, comme l'a montré l'affaire Tramont-Chanel. Terrible histoire. Le 15 mars 2007, le jury des assises de la Dordogne n'a condamné la docteure Laurence Tramois qu'à un an de prison avec sursis pour avoir prescrit une injection mortelle de chlorure de potassium à une patiente, amie proche en plus de la docteure Tramois, de 65 ans. Elle était atteinte d'un cancer du pancréas en phase terminale. Et donc les assises là, ont acquitté l'infirmière Chantal Chanel qui a administré le produit.
Ok.
Il faut juste que ceux qui m'éteindront n'aient pas de lien d'intérêt direct avec moi, de type héritage, donc ça peut être ma famille, tu vois. Le mieux serait de faire ça par des professionnels de santé qui pourront me prescrire, je sais pas moi, un anesthésiant pour grizzly, tu vois, ou une cachette sédative pour les panflux. Si nous décidons collectivement de la moralité de l'euthanasie, la mort vraie ou juste, euthanasie c'est eux, la racine grecque c'est eux, vrai. Alors il faudrait s'en remettre à notre cercle amical proche, à nos chefs Bromden, à nous, tu sais, pour reprendre la terrible fin du vol au-dessus d'un coucou de Ken Casey qui avait adapté au Cinoche par...
C'est Milos Forman.
Milos Forman, oui, tout à fait. De fait, mes parents, frangins, compagnons, enfants, sont exclus du processus. Ils ne peuvent pas participer à ça.
Et Richard, qu'est-ce qu'on fera de ton corps ?
Ah, mon joli corps. Excellente question. T'as remarqué que déjà, de notre vivant, notre corps ne nous appartient pas complètement. Bah, une fois mort, bah, c'est pire.
Ok.
S'il est totalement ravagé, tu vois, genre défoncé et tout, je préférerais dans l'absolu qu'on mette ma dépouille à composter pour enrichir de jolis légumes plutôt que sous une dalle de marbre à 200 sacs où rien ne pousse. Et il y a des projets en ce moment, hein, d'ailleurs développés pour composter les morts. En Belgique, il y a une association qui se bat pour ça.
Une tomate à tête de Richard.
Ça pourrait flipper. C'est une théorie biologique étonnante. s'il est en bon état, mon corps, alors je serais ravi qu'on prélève tout ce qui est possible de prélever, tu vois, cornée, cœur, foie, rein, poumon, pancréas, os, cartilage, peau, et même parfois des bouts d'intestin. C'est possible si et seulement si je suis encore assez jeune. Bon, si je suis en état de mort cérébrale, normal, même si depuis 2006, le prélèvement d'organes à cœur arrêté est également autorisé. Et si le temps post-mortem n'est pas trop long, genre, je ne suis pas trop faisandé, tu vois. Moins de 30 minutes d'arrêt cardiaque et moins de 2 heures pour mettre en place les mesures de préservation des organes. Logique, sinon le porteur recevra un organe pas frais. Tu vois, c'est comme les poissons d'ordre alphabétique, si tu veux. C'est pas le domier. Enfin, si je ne me suis pas opposé au prélèvement de mon vivant. Car en France, vois-tu, on aurait dû fonctionner depuis la loi Cavaillé de 76 sur le principe du consentement présumé, mais c'était pas appliqué. Enfin, très peu, quoi. Depuis le 1er janvier 2017, c'est rendu plus clair, mais ça fait pas envie. Tu es comme moi donneur d'organes et de tissus, sauf refus exprimé de ton vivant. Ta famille, dès lors, ne pourra plus intervenir dans la décision si tu n'as pas effectué les démarches officielles.
Et donc, ma carte de donneur, alors ?
Ben, c'est en soi à rien. Sinon, à en causer avec tes proches et à lancer le débat à table, tu vois. Si tu tiens en revanche à t'y opposer, tu dois l'exprimer clairement ou mieux te faire inscrire au registre des refus, ce qui peut se faire en ligne sur le site www.registrenationaldesrefus, en un seul mot, registrenationaldesrefus.fr.
Okay.
Tu peux même depuis 2017 choisir un refus partiel, ciblant certains organes. Tu t'imagines bien que pour que tout soit aussi rapide, il faut généralement un accident. Les circonstances sont donc un peu raides pour ta famille qui doit affronter ta perte, éventuellement regarder ton corps disloqué et en outre se retrouver confronté au prélèvement. Drôle de moment, franchement, pas souhaitable. Alors, c'est pas mal de faciliter les choses à l'avance, je trouve.
Ouais, c'est vrai. Il me semble un peu évident qu'étant susceptible de bénéficier d'une greffe d'organes, moi-même un jour, je me dois d'être à cette solidarité néanmoins. Mm-hmm.
Sur le plan collectif, oui, moi je trouve ça logique. Hein. Je te conseille aussi un truc. Si tu peux, meurs plutôt d'un accident de montagne, de ski par exemple.
Mais pourquoi ?
Bah parce que si tu fais du ski, c'est que t'es encore péchu, donc que tes organes sont encore jeunes ou en bon état, et surtout, qui dit ski, dit neige.
Et
qui dit neige dit chaîne du froid ininterrompu, et donc organes frais. Et les futurs transplantés te seront fort reconnaissants de ta présence.
Ignoble. Tu vois que ma famille pourra connaître l'identité du transplanté ?
Bah, je crois pas que. Enfin, j'ai le doute, mais je crois pas que t'en aies le droit. Imagine que ce soit toi le transplanté. T'aimerais vraiment que des gens qui te sont inconnus débarquent pour te regarder dans les yeux en essayant d'y voir leur enfant ou leur belle-fille. En France, les dons sont encore anonymes et gratuits.
Toi encore, me fait un peu peur, ça va changer ?
Il y a des signes alarmants venus du secteur des produits issus du sang humain. Alors pour bien comprendre ce qui se joue, il faut savoir qu'en France, il y a une structure publique qui a été créée en 1998, l'EFS, l'Établissement français du sang, qui est chargée d'assurer l'autosuffisance nationale en produits sanguins labiles, concentrés de globules rouges, concentrés de plaquettes, plasma, avec un degré maximal de sécurité sanitaire et dans le respect des principes éthiques de base. Anonymat, volontariat, gratuité du don, pas d'affectation à un malade précis.
Ok.
Cet établissement a été créé dans le cadre d'une restructuration de la transfusion sanguine en France pour éviter une autre affaire du sang contaminé. Toi, t'es trop jeune pour te souvenir de cette affaire révélée en 91, je me rappelle bien, dans laquelle
j'ai lu.
De nombreuses personnes avaient été contaminées par le VIH ou l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine. Quoi qu'il en soit, l'EFS est l'opérateur unique en France pour les transfusions et la récupération des dons du sang qui se font gratuitement et anonymement. Sauf que...
Tiens donc, je sentais bien que le ciel allait s'obscurcir.
Ouais, le laboratoire suisse Octapharma, la plus grosse boîte privée de confection de produits sanguins humains, n'entendait pas se laisser piquer un marché porteur pour son plasma purifié. Alors, ni une ni deux. Il conteste au nom de la libre concurrence le monopole d'État de l'EFS sur les produits sanguins labiles et porte l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne en mars 2014. Et il gagne son procès. Cela place de facto la transfusion sanguine en France dans une situation de concurrence capitaliste. Pour sauver le monopole de la collecte gratuite et anonyme et ne pas ouvrir le marché du sang à tous les vautours du coin, le gouvernement a classé le plasma thérapeutique, qui était l'enjeu central de l'Octave Norman, non plus comme produit sanguin, mais comme médicament. Ouf, l'EFS est sauf pour l'instant.
Okay.
Car c'est une première escarmouche qui laisse présager des batailles bien plus rudes. D'ailleurs, le don de sang gratuit est de plus en plus une spécificité française. Ailleurs, États-Unis, Allemagne, Chine, etc., l'activité est déjà rémunérée.
Ok. Et comme nous, on doit faire des économies, il n'est pas souhaitable de rémunérer l'art de tomber dans les pommes après un don, c'est ça ?
Non, cet argument ne tient pas. Il semble qu'il soit plus coûteux de recourir à des donneurs bénévoles qu'il faut mobiliser avec des campagnes publicitaires, des unités mobiles de collecte et autres, que de payer des donneurs. Non, le problème, il n'est pas là. Il est moral. Passer au don payant, c'est risquer que les donneurs ne soient désormais que les plus pauvres, les riches n'ayant pas besoin de le faire. C'est aussi le risque qu'un donneur ne soit tenté de ne pas révéler certaines maladies pour être payé. Tu vois. C'est surtout ouvrir grand les portes de la concurrence dans le marché sordide du commerce du corps humain.
Ok. Et si je donnais mon corps à la science ?
Ah. Bah, il faut que tu fasses connaître ta décision de manière claire de ton vivant,
okay.
En écrivant une déclaration sur papier libre. Tu la dates, tu la signes, tu l'envoies à la faculté de médecine de ton choix. La fac te dira si elle dispose d'un centre de dons. Ensuite, tu recevras une fiche à remplir et quelques papiers, et tu devrais recevoir ta carte. Tu peux la détruire quand tu veux si tu changes d'avis. Mais attention, conserve-la dans ta poche, car quand tu mourras, ton corps ne sera transféré à la faculté que sur présentation de l'original de cette carte. Il y a quelques cas où tu peux être refusé. Par exemple, si tu es mort bizarrement, et que tu es susceptible de faire l'objet d'une enquête médico-légale.
Ambiance des experts.
Alors, juste deux choses que tu dois anticiper. L'établissement de santé, de formation ou de recherche assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps. Par contre, aucun texte ne précise qui est responsable du coût du transport du corps. Okay. Donc, selon les centres de dons, toi ou tes proches peuvent être amenés à prendre en charge ce coût.
Okay.
Et puis, préviens tout le monde que ton corps ne sera pas rendu.
Oui.
À la rigueur, tes cendres, si ta demande est faite, mais dans la plupart des cas, les corps sont incinérés anonymement et leurs cendres dispersées dans un jardin de souvenirs. Tout ça après plusieurs semaines, mois et même années parfois. Donc, méfiance, tes proches pourraient mal vivre le fait de ne pouvoir procéder à tes obsèques. En revanche, rappelle-leur que si un jour ils sont opérés, ils devront la réussite de leur intervention au fait que le chirurgien puisse exercer sur des corps avant. Donc au fond, ils te le devront à toi aussi.
Et si personne ne veut de mon corps, j'ai quel choix ?
L'état de mort légale entraîne la perte des droits de la personne. Décédée, elle n'est plus considérée comme une personne au sens juridique du terme. Cependant, en France, le droit du défunt au respect est assuré par la loi. Elle dit ça, la loi. Elle dit « Le respect dû au corps humain ne cesse pas après, avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. »
Ok, c'est un peu comme avec tact et mesure.
Ouais, comme au chapitre, je sais plus, 3, je crois. Donc, tu as donc le choix entre l'inhumation et la crémation en France. La cryogénisation, bah, ça, hibernatus, tu oublies. C'est pas prévu par le Code général des collectivités territoriales, le CGCT. Si t'étais au Tibet, tu pourrais demander l'inhumation céleste, mais je doute que ça soit de bon goût pour tes proches.
L'inhumation céleste dans le ciel ?
Ton corps est donné en pâture au vautour, effectivement. Tu t'élèves par morceaux.
Disons que je vais peut-être prendre une inhumation terrestre.
Ouais, alors, ce que tu dois savoir, c'est que ta famille peut choisir librement le lieu d'inhumation. En revanche, un maire pourra refuser ton inhumation dans sa commune.
Ah bon ?
Sauf si tu y résidais, si tu y es mort, ou si le caveau familial s'y trouve déjà. À défaut de pouvoir refuser, le maire peut requérir que la tombe reste anonyme, notamment pour éviter qu'elle devienne un lieu de pèlerinage, par exemple dans le cas de l'enterrement d'un gangster notoire ou d'un terroriste.
Ok. Je peux choisir des obsèques civiles ou religieuses, hein, c'est ça ?
Ouais, depuis quasiment un siècle et demi, on t'oblige plus à au curé quel qu'il soit, okay, avec ses enfants de cœur, tu vois, et l'encensoir qui fait tousser, tout ça.
Et les carrés professionnels ?
Alors ça va te plaire.
Okay.
C'est encore bourré d'hypocrisie.
Ah bon ?
Depuis 1881 et la loi du 14 novembre qui a laïcisé les cimetières, le maire d'une ville n'a plus le droit théorique de diviser le cimetière communal en portions correspondant chacune à un culte. Okay. Seules les tombes peuvent faire apparaître des signes particuliers propres à la religion du défunt.
Là, quand je disais évidemment professionnel, t'as compris confessionnel.
Tu veux dire les carrés confessionnels.
Confessionnels, voilà. Religion.
L'article L 2213-9 du CGCT précise que les pouvoirs de police du maire, rappelle-toi, il est OPJ, il est
officier
judiciaire, dans les cimetières, doivent être accomplis, je cite, « sans qu'il soit permis d'établir les distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ». Et le Conseil d'État, dans son rapport public de 2004, relève sans ambiguïté que, je cite, « l'institution de carrés confessionnels dans les cimetières n'est donc pas possible en droit ».
Sauf quand tu me fais ces petits effets ça là avec ton sauf là, je sais que tu vas me parler soit de Mayotte, soit d'Haïti, soit de l'Alsace-Moselle.
Ouais, exact, l'Alsace-Moselle. Ben là, il y a le droit. Mais accroche-toi au rideau. Dans une circulaire du 19 février 2008, la ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, a écrit que tout maire a la possibilité de déterminer l'emplacement affecté à chaque tombe, je cite, et donc de rassembler les sépultures de personnes de même confession sous réserve que les principes de neutralité des parties publiques du cimetière et de liberté de choix de sépulture de la famille soient respectés. C'est donc une oxymore, quoi. C'est obscurément clair que le maire peut créer des carrés confessionnels de fait, mais selon l'article 2542-12 du CGCT, en veillant à ne pas y reconnaître ni matérialiser leur existence. Comme ça, la religion continue à séparer les gens jusqu'au bout du bout.
Comment dire ? Et si je veux être enterré dans un carré confessionnel ?
Eh ben, en soi, tu peux, mais moralement, c'est discutable, car il n'y a pas un carré spécifique pour tous les mouvements religieux, seulement pour les plus gros, quoi. Donc les sikhs, les bouddhistes du grand véhicule, les hindous, les rastafariens, les pastafariens, j'en parle même pas, peuvent se gratter la scapula avec les phalanges, quoi. Et surtout, ça crée encore du communautarisme là où il n'y en a pas besoin.
Oui.
Si la part divine est bien contenue dans l'âme, alors celle-ci s'envole avec la mort, donc ne reste que la poussière que tu étais. Quel intérêt d'aller lui donner une bannière confessionnelle ? Autant créer un carré syndical, un carré politique...
Un carré d'Aurillac. Mais oui, c'est un fromage, je déconne. C'est un fromage.
C'est pub déguisée.
Et j'ai un autre choix que 6 pieds sous terre.
Que 6 pieds sous terre, ouais, dans un four.
Ok.
Mais il y a encore 130 ans, la crémation valait un paquet d'ennuis. Hein. Il a fallu une lutte acharnée depuis même avant la Révolution française, pour en faire reconnaître le droit en 1887 et son application 2 ans plus tard. Pour y parvenir, il a fallu enlever à l'Église le monopole sur les obsèques et créer une législation civile garantissant à chacun de tester, c'est la même étymologie que testament, c'est-à-dire inventant pour chacun la liberté de prendre les dispositions de son choix concernant ses biens et sa sépulture. En 1795, il est envisagé d'autoriser la crémation fortement condamnée par l'Église, mais les révolutionnaires n'en ont pas le temps, et l'Empire éteint la revendication. On doit au militantisme des républicains et surtout des libres penseurs pour un siècle plus tard avoir ce droit. Chacun peut désormais prévoir, par testament, ses dernières volontés pour ses funérailles. Un testament authentique, pour celui qui peut se payer le notaire, ou un testament holographe, c'est-à-dire écrit à la main sans passer par un acte notarié, pour celui qui n'en a pas les moyens. Il a été, et est encore, appelé souvent testament philosophique. C'est joli. Bien sûr, l'Église a repris la bataille avec acharnement. Elle a mis tout en œuvre, cas par cas, famille par famille, pour imposer les funérailles religieuses. Elle n'a pas hésité à diviser les familles pour tenter de terroriser, sinon les mécréants eux-mêmes, au moins leurs proches. Alors, de nos jours, l'Église catholique française ne refuse pas la crémation. Je cite, à condition que celle-ci ne soit pas envisagée par opposition et provocation à la foi catholique. Dixit, le directeur canonique et pastoral pour les actes administratifs des sacrements. C'est la note du 4 juin 1986. Mais je ne vois pas comment on pourrait prouver ça.
Ok. Mais mes cendres.
Ah, tes cendres. Elles sont remises à ta famille. Jusqu'en 2007, on pouvait en faire presque ce que bon semblait, quoi. Les enterrer au pied d'un rosier, les disperser au vent, les verser dans la mer, les répartir, les conserver au domicile, ou même les, à la rigueur, les fumer comme Catherine Charles disait l'avoir fait avec son père, il les a fumés. Et sniffé d'ailleurs. Maintenant, la dispersion des cendres est limitée, interdiction de les jeter sur la voie publique, dans une rivière ou dans la mer, lorsqu'on est à moins de 300 mètres du rivage. Si tu veux quand même qu'on te déverse dans la nature, celui qui hérite de ton urne doit faire une déclaration.
Mais pourquoi juste pour les cendres ?
La loi du 19 décembre 2008 donne aux morts, sous quelque forme qu'ils soient, corps, reste mortel ou cendre, exactement le même statut. Les cendres ne doivent désormais plus être divisées et leur destination est légalement encadrée. Fini le coup de vent qui te renvoie les cendres de grand-père dans la figure, ça m'est arrivé. Et celles de grand-mère qui partent sur un petit bateau en branchage sur une rivière, ce que j'ai fait aussi pour ma grand-mère. Tu dois soit les mettre dans un columbarium, soit dans un jardin du souvenir, soit les inhumer dans une sépulture, ce qui, tu l'admettras, est un petit peu étrange, on va enterrer tes cendres. Ou les sceller dans un monument de famille. Elles peuvent également être dispersées en pleine nature, mais en une seule fois. Et selon l'article 2223-18-3 du CGCT, tu n'as plus le droit d'être gardé en cendres chez quelqu'un. La question de fond et l'accessibilité du lieu de sépulture dans un cimetière, columbarium, caveau, jardin de souvenirs ou en pleine nature, tout le monde est libre de venir se recueillir. Avec l'urne dans un domicile, il faut, pour se recueillir, avoir l'autorisation de la personne qui la garde, donc à moins d'aimer avoir des inconnus se pointant chez toi.
Mais qui paye pour tout ça ?
Là, l'État ne fournit rien. Tu peux choisir et payer tes funérailles de ton vivant. Si tu ne l'as pas fait, ce sont tes proches familiaux qui s'en chargent. Si tu étais fauché, et ta famille aussi, alors c'est la commune du lieu de décès qui doit s'en charger en respectant ta volonté, si tant est que tu l'as exprimé quelque part. Et si tu as fini tes jours dans un établissement de santé et que personne ne te réclame, au bout de 10 jours passés à te corroder de l'intérieur, c'est le centre qui doit prendre les frais en charge.
Ok, mais imagine qu'un enfant refuse de payer les frais d'obsèques de son parent.
S'il était la sœur ou le frère du défunt, il n'est tenu à rien. L'enfant, en revanche, même s'il a renoncé à la succession, est obligé de les payer. Car ces frais sont perçus comme une obligation alimentaire envers ses parents, au nom de toutes les madeleines qu'ils t'ont données quand tu étais mauve. Bon, cela dit, on ne peut pas obliger l'enfant à payer des frais dits somptuaires, comme un cercueil en acajou massif ou un linceul en fil d'or, un corbillard tiré par des chevaux d'Alzan, tu vois. Et la Sécurité sociale octroie aux proches d'un défunt assuré un capital décès. Avant fin 2014, il était égal aux 3 derniers salaires mensuels perçus. Son montant était très variable, de 380 balles à peu près à 9 510 euros. Depuis 2015, les familles perçoivent un montant forfaitaire fixé par décret et revalorisé chaque année. Au 1er avril 2017, ce montant est de 3 415 euros. Pour toucher ce capital décès, regarde bien les conditions d'obtention sur www.amélie.fr et pense à en faire la demande par le biais d'un formulaire qui s'appelle le S3180, demande de capital décès.
D'accord, mais pour la cérémonie elle-même ?
Ah, tu peux limiter la casse, tu peux demander aux pompes funèbres des obsèques économiques, tu peux aussi régler les frais d'obsèques avec le compte courant ou le livret A de ton défunt, dans la limite de 5 000 euros. Tu n'es pas non plus obligé de payer un centre funéraire privé. Il appartient aux communes de proposer aux familles, lors des obsèques civiles, un lieu pour se retrouver autour du défunt. Tu peux demander au maire l'autorisation d'utiliser une salle communale, une salle municipale, foyer, gymnase, salle des fêtes ou d'exposition. Avoue qu'une salle des fêtes, c'est sympa, je trouve. Tu risques de braquer encore quelques municipalités réticentes à l'idée de choquer l'opinion, mais au fond, quelle opinion Et choquer de quoi ? Je t'ai déjà dit, la mort, en fait, elle fait partie de la vie.
C'est vrai, mais c'est quand même flippant.
Au fond, tu retournes où tu étais avant de naître.
Pas tout à fait au même endroit.
Ouais, ouais. Puisqu'on en cause, les cimetières posent question sur le plan social. Sachant que dans leur majorité, les communes en ont, et que 4 à 6 cercueils occupent environ 10 mètres carrés. Tu vois un peu l'emprise au sol.
Ouais.
T'imagines la surface agraire possible.
Ouais.
En plus, elle est tout riche en nutriments. C'est pour ça que je ne veux pas être enterré. Mon slogan, c'est « La terre aux paysans, pas aux morts enfin, ». Et on pourrait raisonner collectivement aussi sur le bois utilisé pour la bière, le cercueil. Un autre slogan est « Pas de bois dans la bière !» Juste du picon.
C'est nul.
J'aurais dû dire la mère bière, parce que picon, c'est une marque. Bon, bref, le slogan, il est nul, oui, mais la réflexion, non. Si tu corrèles l'effet de serre, la déforestation, la santé, tu rapproches avec le sujet, en fait. Tu sais qu'il y a des gens qui militent pour le cercueil en carton
recyclé, tu plaisantes ?
Non, et ça commence à être accepté. Il y a une entreprise dans le Gard qui bataille ferme pour ça. Avantage majeur, bah moins lourd,
ouais.
Pratiquement 5 fois moins cher,
okay.
Personnalisable.
C'est génial.
Ah, il y a encore quelques petits défauts, genre les cercueils ne participent pas à leur propre combustion en cas d'incinération. Alors, il est nécessaire d'injecter du gaz pour que cette dernière soit complète. C'est un peu plus polluant, quoi. Et puis, la puissance nécessaire pour brûler un cercueil en carton est plus élevée que celle nécessaire pour brûler un cercueil en bois. Je crois que c'est de l'ordre de 10 kW de plus. N'empêche, si les cercueils en carton sont conformes à la norme AFNOR, qui est NFD 80001 et NFD 80003, ce qui va, les crématoriums sont légalement tenus de les accepter, mais dans plus de la moitié des départements français sont fusés.
Okay.
La première crémation d'un cercueil en carton a eu lieu en février 2017, dans les Deux-Sèvres. Et je vais t'achever, en Espagne, il y a des gens qui testent des cercueils en coquille d'amande broyée.
Ah bon ?
Ouais. Et au Danemark, à base de papier mâché recyclé, ça s'appelle The Dankoff. Le slogan, c'est The Green Way to Heaven. Le chemin écologique pour le paradis.
Toi, c'est classe. Qu'est-ce que tu apprends pour toi ?
Non, moi j'ai une autre idée. J'ai un copain, il fait du design libre à Grenoble, Christophe de l'association Entropie.
Ouais.
Je lui ai demandé si on pouvait mettre en licence libre, donc sans propriété intellectuelle, un cercueil facile à faire soi-même, avec les cotes, la mesure, le matos, tout, et qui servirait de meuble type table basse de ton vivant. Et bien, il est chaud comme la brise pour faire ça.
C'est génial.
Mais si t'as pas l'âme bricoleuse, tu peux encore défendre un service funèbres publiques, il y a des pompes funèbres privées, mais aussi des municipales qui proposent déjà un premier prix correct, aussi visible que les autres prix au moment du choix. Après, tu me diras, bon, mon incinération n'est de toute façon pas super propre sur le plan écologique. Le four monte à 600 degrés, parfois jusqu'à 1000, le tout pendant 1h30 environ. C'est dommage, cette dépense calorique. Au cimetière du Père-Lachaise, à Paris, ils ont mis au point un système vachement intéressant pour filtrer les fumées. Celles-ci doivent être refroidies de 900 à 200 degrés environ, et l'énergie de ce refroidissement est utilisée en partie pour le chauffage, pas mal.
Ok.
Ouais. Si on me laissait me composter, c'est moi qui dégagerais de la chaleur. On pourrait même faire du biogaz.
Oh, punaise. Je vois bien repartir avec, en guise d'urne, une petite bonbonne de gaz sous le bras.
Avec du moins dedans. J'y pense, à la fin de la crémation, il reste quelques morceaux.
Je sais, c'est un peu ordinaire.
Okay. On appelle ça les calcius. Depuis 1976, on est obligé de les pulvériser aux grandes dames de certaines personnes, souvent originaires d'Asie du Sud-Est, pour qui conserver des morceaux d'eau, c'est important.
Oh.
C'est pour ça qu'il ne reste que de la poudre à la fin, enfin presque que de la poudre.
Mais comment ça ?
Bah, y a aussi des petits morceaux de métal.
Et dans l'or ?
Bah ouais. Et puis le mercure des alliages, quand on en faisait encore, des prothèses, des broches, des vis, parfois même des outils, et des ciseaux par exemple, purifiés dans la carcasse de la personne pour une opération. Ça arrive, hein, ouais. Les prothèses cardiaques, les pacemakers, elles peuvent exploser. Il faut penser à prévenir les professionnels avant la crémation.
Mais que devient tout ce métal ?
Ben, comme il y a pas mal de titane et d'or, il est l'objet de tous des fantasmes. Et en vrai, il y a de quoi ? Ce métal tombe dans un flou juridique. Il est laissé à discrétion de l'entreprise qui fait la crémation.
Ok.
Généralement, un collecteur spécialisé vient récupérer la quincaillerie contre une redevance, souvent dispatchée dans des associations en lien avec le deuil. L'une des plus connues est la société néerlandaise Orthometals, qui s'occupe du recyclage des métaux. Moi, j'ai pas de prothèse pour l'instant, mais je réfléchissais à un truc. Comment rester utile à la communauté, même réduit ensemble ?
Alors ?
Eh ben, j'ai trouvé une utilité géniale. C'est ma maman qui m'a soufflé. Paix à son âme, si l'âme existe. Sablier.
Tu plaisantes, j'espère.
Ah, ok, non, j'ai même trouvé une boîte aux États-Unis qui s'appelle In the Light Turns, qui en fabrique de très beaux à partir de cendres de défunts. Si, avec un peu de chaleur récupérée de la crémation et un sablier, tu pourrais te faire des œufs à la coque à ma santé.
Non, mais quel.
Non, t'es vegan, peut-être. Ouais.
Mais quel sens a-t-elle la vie alors, Richard ?
Bah, on en a déjà parlé. Soit t'acceptes un sens prémâché venu des religions et tu l'avales comme une hostie, soit tu te dis que la vie n'a que le sens qu'on veut bien lui donner. Moi, je lui donne un sens social et je me préoccupe de créer les premières pistes vers un paradis, non plus dans les nuages, mais sur Terre.